La plupart de ceux qui sont ici aujourd'hui ont une connaissance du rôle historique de Karol Modzelewski. Certains le connaissent personnellement. Et je voudrais dire qu'ils seront certainement d'accord avec moi. Cet ouvrage porte bien son titre. Il illustre à la perfection l'idée qu'il est possible d'apporter un éclairage puissant à des grandes questions sociales, politiques, culturelles, intellectuelles, en croisant le public et le privé, la trajectoire personnelle, singulière, et l'histoire qui se fait. Donc, l'histoire qui galope et son cavalier. Son cavalier se dit usé. Lisez ce livre et vous verrez qu'il y a de quoi. Beaucoup sont usés beaucoup plus tôt et beaucoup plus jeunes. L'histoire dont il est question, c'est de la grande histoire, c'est de la très grande histoire, d'une importance cruciale dans le temps et dans l'espace. Elle commence dans ce livre avec la naissance de Karol Modzelewski à Moscou, à l'époque de Staline, avant-guerre. Elle va pratiquement jusqu'à aujourd'hui. C'est bien sûr l'histoire d'un pays, d'une nation, une société, la Pologne, mais une Pologne dont le sort est indissociable d'une partie du monde beaucoup plus large, qui a connu le communisme, le soviétisme, et qui a su s'en écarter. C'est aussi une partie du monde où la résistance au mal, le combat politique contre le totalitarisme, a revêtu un tour impressionnant. Non pas le tour qu'ont connu d'autres pays, avec des dissidents, mais celui de la construction d'une action collective, dont le sommet, à mes yeux, a été Solidarność, apparu en août 1980, que mes voisins connaissent tous bien mieux que moi, bien sûr, et que j'ai eu la chance d'étudier avec Alain Touraine à l'époque. Alain Touraine, François Dubec, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, et une merveilleuse équipe de chercheurs polonais. Rien à voir, nous explique d'ailleurs Karol Modzelewski, avec aujourd'hui, avec d'abord le post-Solidarność, les années libérales de la fin du XXe siècle, et encore moins avec la période actuelle, où il est un symbole lucide, présent et actif dans le refus des dérives actuelles, nationalisme, néolibéralisme, antisémitisme, etc. Et donc, ce livre est un livre d'historien, l'étonnant étant d'ailleurs que si Karol est capable d'écrire des pages décisives de l'histoire, son histoire à lui, comme historien, c'est celle d'une toute autre époque, c'est un médiéviste. Sa spécialité est donc bien éloignée de celle qu'il étudie. Il évoque ses engagements très tôt, de façon éclairante. J'en rappelle quelques-uns, parmi peut-être les plus connus. Les anciens trotskistes français, ceux des années 60, il y en a quelques-uns dans cette salle, je ne les nommerai pas, vouait à l'époque une admiration sans borne à Karol Modzelewski, qui demandait de l'intérieur du système qu'il se transforme. C'était sa célèbre lettre ouverte au Parti ouvrier unifié de Pologne, connue assez tôt en France. Mais ses engagements étaient déjà beaucoup plus anciens. Dès 1956, c'est un acteur. Il est dans l'opposition étudiante. Il joue un rôle aussi très important ensuite, en 68, dans le 68 polonais, la revue Socio a publié un texte de lui très intéressant. Et il y a toujours une petite pointe d'humour très contrôlée chez Karol Modzelewski, où il commence par dire qu'il est difficile de dire que mars 68 s'explique par mai 68. C'est embêtant pour un historien, mais qu'il y a quand même quelque chose entre les deux. Et dans son livre, vous verrez des pages exceptionnelles pour toutes les périodes qu'il envisage. J'avais beaucoup étudié moi-même Solidarność. Je peux vous dire que j'ai appris énormément sur ce mouvement, alors que je croyais bien le connaître. Il a été emprisonné ensuite, dans le contexte de la répression qui a mis fin à l'existence de Solidarność, à l'existence du grand Solidarność en 81, et ce n'était pas la première fois qu'il faisait l'expérience de la prison. Alors la suite est passionnante aussi. Le livre est toujours bien écrit, bien traduit aussi. Je ne sais pas qui est la traductrice, mais si elle est dans cette salle, je veux la féliciter. Et on lit souvent ce livre comme un thriller dont Karol Modzelewski est à la fois le personnage principal et l'auteur. Ça fait quelque chose de très, très passionnant. Alors je terminerai en vous disant quelques mots de la personne, Karol Modzelewski, non pas tant comme responsable institutionnel, mais comme ami à qui il a fait découvrir Bulat Okudžava. Il commence d'ailleurs son livre par une citation de Bulat Okudžava. Un ami qui l'a réconforté quand la vie était difficile pour lui. En 81, il est parti de chez moi un beau soir de Pologne en me laissant une grande feuille où était écrite une phrase en polonais, je ne suis incapable de la traduire exactement, mais c'était « Ne t'en fais pas, le soleil brillera un jour sur ta rue ». Alors il paraît que c'est une phrase qui dit quelque chose à qui connaît. Ah, mais je te remercie alors. C'était une citation. Je ne sais pas d'où venait la citation. Bon, un mois plus tard, il était en prison. J'ai souvent discuté avec lui. Je l'ai aussi entendu parler en public. Je ne connais personne qui soit aussi clair, en même temps que profond, dans ses analyses politiques. Son propos est toujours d'une rigueur implacable et d'une lucidité impressionnante. J'ai évoqué son travail d'historien. Il est considéré par les médiévistes comme un des meilleurs d'entre eux. J'ai une pensée émue pour Jacques Le Goff, qui aurait été évidemment avec nous ce soir s'il avait été encore de ce monde. Vous verrez que Carole parle un français remarquable. Il est souvent venu travailler en France. Au 54, je tiens à le lui dire, il est chez lui, c'est sa maison. Je le lui dis avec amitié et surtout avec admiration. Et je voudrais, Carole, que tu nous dises quelques mots de ce travail que tu as fait, que tu commentes ta présence en France parmi nous à partir de cet ouvrage.
Tu veux le micro à la main ou devant toi ? Mais c'est à moi de parler maintenant,
si
non ?
Tu veux bien, oui.
Non, c'est vous qui parlez d'avant, qui vous parlez avant.
Alors on va demander à Touraine de dire quelques mots.
Tout le monde doit dire les mêmes premiers mots, à savoir que c'est un homme, c'est une œuvre exceptionnelle. Je veux dire qu'il nous place au plus haut et de l'action humaine, sociale, et de la réflexion intellectuelle. Il y a probablement peu d'exemples au monde d'hommes qui aient été acteurs et analystes à ce niveau-là, qui intéressent le monde entier. Je dirais, on peut tout ignorer de la Pologne. Une fois qu'on a lu le livre de Carole, on a compris des problèmes qui sont ceux du monde entier. Et je voudrais partir de ce qui m'a poser problème le plus directement ces jours-ci, puisque j'ai reçu le livre hier en début d'après-midi, et que depuis lors je ne fais que le lire et j'ai à peu près réussi. C'est que quand nous parlons d'un mouvement, nous avons l'habitude, pas seulement dans une tradition marxiste, mais dans toutes les traditions, nous avons l'habitude de penser à un combat, à un débat, un camp, l'autre camp. Et si nous nous posions la question, qui aujourd'hui se pose sous des formes différentes, mais presque partout dans le monde, est-ce que les acteurs, les combats, les débats les plus importants d'aujourd'hui ne se passent pas dans un monde où il n'y a qu'un acteur, qui est généralement l'adversaire, qui est généralement le méchant, si je peux dire. Et est-ce que nous pouvons, je m'excuse de parler un peu de sociologie, mais est-ce que nous pouvons parler d'un mouvement social lorsqu'il n'y a pas un adversaire, mais l'adversaire c'est le tout, le totalitarisme, que ce soit celui du marché, ou que ce soit celui d'un pouvoir politique, que ce soit celui d'un groupe religieux ou ethnique ou n'importe quoi d'autre. Et par conséquent, le problème qui marque tout ce livre, comme toute l'histoire de Solidarność, c'est que, je vais dire, dans les mots que j'employais il y a 10 ans, ou il y a beaucoup plus que ça, quand nous écrivions à quelques-uns les résultats de notre étude sur ce mouvement. Nous avions dit, c'était la définition que nous donnions à ce moment-là, c'est un mouvement social total, c'est-à-dire qu'il est à la fois un mouvement syndical. La preuve, c'est que les étudiants n'ont pas pu être membres de Solidarność parce qu'ils n'étaient pas salariés et donc pas syndiqués. C'est un mouvement national, évidemment. Et c'est un mouvement démocratique. Tout ça, ça fait beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, je suis revenu de toutes ces heures que je viens de passer dans ce livre, je reviens là-dessus et je me dis, mais quel problème est-ce que ça pose à ce mouvement? Et ce que vient de faire Carole Amosiewski, c'est, je crois, plus que n'importe quoi d'autre, de poser ce problème du rapport entre la dimension, disons, combative et la dimension inventive, créative, c'est-à-dire le côté national et le côté soit démocratique, soit syndical. Quelle est la position des deux, des rapports entre les deux? Parce que je le dis tout de suite, et nous avons peu de temps, je pense, ce qui est extraordinaire dans ce livre, parce que moi, ça m'a mis les choses tout à fait au point, au clair. Parce que nous connaissions l'histoire que jusqu'à 1981, et maintenant, on la connaît jusqu'à aujourd'hui. Bon, ça change tout, de connaître l'après en même temps que l'avant. Évidemment, l'événement central est éclairé de manière complètement différente et beaucoup plus complète. Et je dirais que même, je me permets de dire, ce qu'il y a de personnel, ce qu'il y a même de bagarreur, ce qu'il y a de conflictuel dans ce livre, et qui est très présent, c'est justement qu'il nous fait découvrir que l'appel à la totalité, au national, et Dieu sait si on en bouffe aujourd'hui, l'appel au total, à la communauté, à la nation, à tout ce qu'on voudra, est contradictoire avec l'appel nécessaire à ce qu'il y a à la fois de constructif et de conflictuel dans l'action d'un mouvement comme Solidarność et dans toutes les actions de tous les mouvements sociaux, quelle que soit leur forme. Et je dirais même, qui est Carole Amosiewski? Il est, à mes yeux, celui qui a été du premier au dernier jour identifié à ce qui est le mouvement vivant, agressif, bagarreur, conflictuel, fondé sur la conscience profonde des combats, des contradictions et des créations de la société, contre toutes les tendances, parmi lesquelles il y a des gens que je respecte infiniment, pour lesquels lui a peut-être des sentiments un peu plus mêlés, mais qui essaye de se rattraper, si je peux dire, de trouver une issue de sortie en passant ou en acceptant de passer à un niveau, disons, national ou général, ou même presque en faisant des jeux de mots. Et d'ailleurs, Michel Lévoca n'a pas employé cette expression, mais il aurait pu tout aussi bien que moi l'employer, puisque Carole dit le premier Solidarność, le deuxième Solidarność. Je dirais même, on pourrait être encore un peu plus subtil dans les divisions, dans le temps, découper plutôt trois étapes ou quatre étapes que deux seulement, mais l'essentiel est là. L'essentiel est dans comment est-on passé du premier Solidarność qui est divin, on crée le monde, au deuxième Solidarność où on se prend les pieds, on se fait prendre les pieds, et finalement on finit par se retrouver dans la situation horrible dans laquelle se trouve ce pays ces dernières années. C'est comment est-on passé de si haut à si bas? Comment est-on passé de la création à la décomposition ou à l'abandon de toutes les grandes ambitions qu'on a eues pour soi-même et pour son pays? C'est cela qui... Alors, c'est parce que, ça il faut le dire très clairement, parce que ce que je dis en ce moment, ce que représente Carole, que je dis en ce moment, c'est un fait, je ne dirais pas unique, parce que je ne peux pas séparer quand même les deux noms, celui de Amosiewski et celui de Carole, ne serait-ce que dans la lettre. Mais enfin, je me permettrai d'ajouter aussi, parce que moi je ne le connaissais pas assez, ce personnage qui vient de la ville où j'ai séjourné moins longtemps que Carole, mais quand même un peu de temps, c'est Frassinioù, qui aussi fait partie de ces gens qui ont essayé de faire vivre. Et c'est ça la première question que je veux poser, où je veux savoir si ma réponse est juste. Comment est-ce qu'on crée un mouvement social quand on a un barrage totalitaire en face de soi ? Qui soit, je le répète, celui du pouvoir politique ou celui du marché ou n'importe quel autre. Et la réponse, que moi je trouve magnifique, et qu'on devrait écouter plus souvent dans tous les pays, y compris à l'Ouest, autant qu'à l'Est dans l'Europe, pour lutter contre un parti totalitaire, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire un syndicat.
Il faut faire ?
Un syndicat, a dit monsieur Mogévi. Et il l'a fait. Et il l'a fait vivre. Et il l'a fait se développer, il l'a fait se battre. C'est-à-dire, il y a une pratique sociale. La solution, c'est ça. Moi, ce que j'entends chez Mozevski, c'est l'homme qui dit, n'oubliez pas, parlons grec une seconde, n'oubliez pas derrière le logos la praxis. N'oublions pas qu'il faut faire. Et il faut défendre des idées très générales, très hautes, très complexes, et des intérêts très pressants, très immédiats en ce moment. Cette union de la chair et de la tête, c'est ça à propos d'un mouvement social. Mais je ne connais pas de gens qui aient parlé aussi bien de ce qu'est un mouvement social, quel qu'il soit, que cet homme qui l'a fait, le sien, qui s'est engagé, qui a souffert pour lui, souffert pas seulement de ses ennemis, quelquefois aussi de gens qui étaient proches de lui, et qui fait que tout le monde sait bien, quand on parle de Karol Modzelewski, qu'on parle d'un personnage exemplaire, symbolique, significatif, qui porte en lui les significations les plus élevées de lutte, qui n'ont pas forcément que des aspects élevés, qui n'ont pas forcément que de grandes intentions à défendre. Et il a toujours réussi à dire et à faire que c'est en s'occupant au plus près des problèmes des gens, et en particulier dans le travail, qu'on peut atteindre à les débats les plus décisifs sur l'avenir du monde, parce que les problèmes du travail, ce n'est pas des problèmes marginaux dans le monde, quel que soit le siècle où on se place. Et un mot simplement pour finir, parce que le temps nous est très compté, sur ce fameux double aspect de ce livre, d'arriver à faire une autobiographie qui est l'histoire d'un continent. Et moi, je dirais même l'histoire de plusieurs continents, et peut-être même du monde entier. Comment arriver à dire sur un ton personnel et quelquefois même amusant ou détendant ou anecdotique, toutes les anecdotes portent en elles les significations générales les plus décisives, les plus importantes. Tout est important dans ce livre, même les promenades à la campagne ou les rencontres avec quelqu'un à Wrocław. Voilà, donc je veux, en tant qu'ayant un intérêt intellectuel constant et profond pour ce genre de ce que nous sommes quelques-uns appelés une sociologie des acteurs, et non pas une sociologie des situations ou des systèmes, ou une histoire, les deux mots pour moi sont tout à fait identiques. Je dirais que j'ai rarement trouvé un livre, puisqu'il va depuis le plus individuel dans la vie de l'auteur-acteur, jusqu'aux réflexions les plus générales fondées sur une culture politique et intellectuelle très large. Je dirais que nous avons ici, dans un moment d'extrême creux, d'extrême vide, dans un moment où on peut se dire « mais ces machins-là, ça n'existe plus, c'était autrefois ». Maintenant, tout ça, c'est le marché qui s'en occupe, ou c'est les roitelets de l'Est, de l'Ouest, ou du Sud, ou du Nord. Bon, je dirais que j'ai une reconnaissance infinie à l'homme acteur-auteur qui nous a fait, au fond, croire à nouveau, même au pire moment, dans la possibilité d'employer la pensée pour agir et d'employer l'action pour améliorer la capacité d'action de tout le monde. Merci, Carole.
Merci, Alain Touraine. Je donne le micro à Georges Minck.
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 Oui.
Parce qu'il y a un
Minck
qui n'est pas mal.
Il y a un Alain Minck, peut-être.
J'ai pas dit Alain.
Heureusement. moi, je suis singulièrement ému d'être là. Merci beaucoup, Michel, de m'avoir associé à cet hommage et, d'une certaine façon, exégèse du livre. Je ne vais pas faire cette exégèse du livre, évidemment. Carole, je l'ai rencontrée quand j'étais un très jeune étudiant, en première année d'études d'ailleurs, et je dois dire que dans les strates de ce livre, les différentes strates de la vie de Carole, la première strate, j'ai été très concerné, puisque je peux dire que mon entrée en politique lui doit tout, d'une certaine façon. C'est la lecture de la lettre ouverte au Parti ouvrier unifié polonais, qui a d'ailleurs fait que la Pologne a été un peu mieux connue ailleurs, parce que ça a été, je me rappelle très bien, un best-seller non seulement au Quartier Latin, mais un peu partout, traduit en plusieurs langues. C'est cette période que j'évoque avec beaucoup de sentiments, parce que je crois que ma formation personnelle te doit énormément. J'étais rencontré d'ailleurs directement avant ton arrestation et puis après la courte arrestation et le relâchement avant la nouvelle arrestation. Je me rappelle très bien de ce voyage à Zakopane que Adam Michnik a organisé avec Leszek Kołakowski et toi-même pour que tu expliques à Leszek Kołakowski ce qu'il y a dans la lettre ouverte au Parti ouvrier unifié polonais, et l'échec de poser des questions vicieuses. Je me rappelle de l'une des questions vicieuses, puisque la lettre ouverte proposait la création des véritables milices ouvrières. C'était une des propositions. Et l'échec disait, mais est-ce que ce n'est pas le cercle vicieux par hasard? Et c'est vrai que c'était une bonne question dans les pronostics de la lettre. Mais l'analyse elle-même de cette lettre reste un des documents essentiels, je pense, pour analyser le système de type soviétique, totalitarisme, peu importe comment on le nommera. Je crois que c'était sans doute le texte le plus clair, le plus cohérent, le plus logique, et qui permettait aussi l'action. Je pense que des générations entières en France, notamment, ont passé à l'action aussi et se sont intéressées à l'Est. Jean-Yves, sans doute, le dira aussi, grâce à la lettre ouverte au Parti ouvrier unifié polonais. Je me rappelle aussi d'un épisode, tu étais en prison, et nous étions un petit groupe de chercheurs de contradictions, et nous avons organisé un défilé du 1er mai un peu spécial, à l'intérieur du défilé officiel, et nous savions que tu étais en prison, nous nous demandions si tu écoutais la radio, parce que on s'est mis à crier « Carole, 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 Marx ». Ça passait très bien, mais on espérait que toi aussi tu entendrais le « Carole », parce que c'était ça le véritable message que nous voulions t'envoyer à ce moment-là, évidemment par solidarité. Et puis après, évidemment, il s'est passé beaucoup de choses que tu décris de façon très fine, qui t'a amené à cette position assez extraordinaire d'intellectuel agissant, indépendant en réalité, même si certaines de tes initiatives ont animé les collectivités. Je pense notamment à ta démission au moment de la grande crise au nom de la le fait qu'on ait bafoué un peu la démocratie syndicale en mars 1981, où effectivement Valeza et le conseil syndical ont pris des décisions qui t'ont déplu parce qu'elles n'ont pas été discutées par les militants. Et je pense que ça a été un véritable signe de ton indépendance. Un des plus grands signes de ton indépendance dans ton parcours, c'est évidemment la critique de la thérapie de choc. Et ce que tu as dit, aujourd'hui, on vérifie partiellement du moins que ton pronostic de l'époque était très exact, puisque le manque du social, en quelque sorte, ton ami Jacek Kuroń avec les Kuroniówka a essayé de remédier à cela, mais c'était très marginal par rapport au problème. Évidemment, ça a donné naissance à cette génération des ultralibéraux qui ont complètement oublié qu'on doit redistribuer la croissance. Toi, tu étais un critique conséquent et indépendant de cette période. Et si aujourd'hui, en Pologne, règne un des frères Kaczyński, c'est peut-être aussi parce qu'on ne t'a pas assez écouté à l'époque, quand tu as construit avec d'autres l'Union des Travail, ce petit parti. J'ai assez envie d'ailleurs de te demander pourquoi vous avez échoué, mais tu pourras peut-être répondre à cela. Et puis il y a un autre épisode qui pour moi a une considérable importance et qui est décrit dans les livres. C'est au moment, juste avant l'élargissement européen, lorsque se réunit la Convention pour la Constitution européenne et discutait longuement, sous la pression d'ailleurs des Polonais, sur les racines de l'Union européenne, de l'Europe, racines chrétiennes ou judo-chrétiennes pour nuancer, toi tu publies l'Europe des barbares. Et évidemment, l'Europe des barbares, c'est une fantastique polémique avec ce monolithisme culturel que voulaient imposer à ce moment-là certaines des délégations de l'Europe centrale. Ça n'a pas marché, heureusement d'ailleurs. Le préambule n'a pas été rédigé de la façon trop monolithique. Mais peut-être se sont certains inspirés justement de ta démonstration que des peuples qui parlaient les barbares, et cette langue barbare, ont aussi donné des racines à l'Europe. Et puis j'avais, parce que je pense que ça vaut la peine peut-être de te poser des questions aussi, et pas seulement écouter nos hommages. j'aurais assez envie que tu nous dises, parce que bon, c'est très beau ce titre, métaphore hippique en quelque sorte, qui en polonais est encore plus hippique qu'en français, puisqu'on parle carrément des Zajeżdżamy kobyłę historii. Donc le cheval apparaît déjà dans la première phrase. J'ai le sentiment d'un certain message pessimiste. Je me trompe peut-être, mais j'aimerais bien que tu nous dises davantage sur ta perception de toute cette période. Et aussi peut-être, j'aimerais ajouter un autre trait qui est question, qui est lié à ton côté justement d'homme indépendant, intellectuel indépendant. C'est ta grande amitié avec Jacek Kuroń, bien entendu, et en même temps, quelque part, l'éloignement de Jacek Kuroń à un moment donné, à certains moments de l'histoire. Est-ce que, je me rappelle très bien qu'au moment de la naissance du corps, toi, t'as envoyé une lettre au secrétaire du Parti ouvrier unifié polonais, et certains de tes amis, peut-être pas Jacek Kuroń lui-même, mais Adam Michnik certainement, considérait que c'était une démarche anachronique. Est-ce que tu pourrais...
Michnik, il a dernièrement... Mais je m'excuse.
D'accord, tu pourras peut-être... tu pourras peut-être répondre à ces questions.
Dernièrement, publié un texte. C'était à mon anniversaire, il me paraît. Donc un texte particulier, bien sûr. Où il donne plutôt raison à cette proposition du langage qui pourrait permettre le dialogue avec les autorités communistes, entre l'opposition et le dialogue.
Mais je me rappelle qu'à l'époque, ça a suscité certaines critiques.
Oui, c'était mal
interprété.
Michnik était à l'époque à Paris,
oui.
Donc il avait une autre optique. Pas de la mienne, de ses copains de Varsovie, peut-être.
Alors, ma première question, est-ce que tu as entendu Karol Marx?
Pardon? Oui, j'ai entendu ça. C'est-à-dire, je n'ai pas discerné qu'il s'agit de moi, mais j'ai entendu les mots d'ordre scandés. J'ai compris qu'il y a une manifestation au sein d'une manifestation qui est une manifestation des opposants. Et je suis monté au tabouret. Nous avions quelques tabourets dans la cellule. Nous étions en 8 ou en 7, non, en 7 en ce moment-là, dans une cellule à 4. Mais il y avait un haut-parleur qui transmettait la manifestation de... Je m'excuse de... Je casse l'ordre probablement de...
C'est très bien.
Bon, en tout cas, j'ai compris que les jeunes gens qui sont, sinon personnellement, au moins politiquement mes amis, font leur manifestation dissidente par rapport au 1er mai officiel. Et ça, c'était un gros soulagement pour moi. Ça, j'avais compris.
Merci. On écoute Jean-Yves.
Merci. Oui, bonjour. Je vais essayer de pas reprendre tout ce qui a été dit. Je donnerai quand même un souvenir personnel, enfin quelques souvenirs personnels du début. Je connais Carole Modzelewski depuis très longtemps, à peu près la même époque que Georges. Mais je ne l'ai rencontré pour la première fois qu'au moment du congrès de Solidarność en 1981. Avant, je fais partie de ces gens qui ont diffusé la lettre ouverte de Modzelewski et Couronne d'abord dans son lycée, à Cannes, c'était pas la Sorbonne, c'était à Cannes, et qui en avril 68... Je me souviens très bien, il y a eu un grand forum qui a été organisé à Nanterre par le mouvement du 22 mars. Et j'étais à ce forum en tant que représentant de l'UNEF. À l'époque, j'étais à l'UNEF à Nice. Et il y avait trois grands forums. Et un était sur l'Est. Et de quoi on parlait sur celui de l'Est ? On parlait de la lettre ouverte, entre autres. Et c'est là qu'on en a aussi beaucoup parlé. Donc, si vous voulez, je pense qu'ensuite, pour moi, Carole Modzelewski, c'est d'abord... Et le mot n'a pas été prononcé, mais je crois qu'il faut le prononcer. Dans toute cette histoire, c'est un homme qui est attaché à ce qu'il appelle, dans son livre, au moment où il le dit, une tradition de gauche. C'est un homme de gauche. Alors ça paraît un peu bizarre de dire ça aujourd'hui. En France comme en Pologne, ce n'est pas toujours un qualificatif qui est bien représenté, qui est bien apprécié. Mais je crois que pendant toute cette époque, Carole a représenté pour moi et pour beaucoup d'autres un point de vue de gauche. Et ce point de vue de gauche, il l'exprime très bien dans son livre, notamment au début, lorsqu'il raconte comment il a grandi, comment il s'est formé. Et il prend toute une série de valeurs. Pour lui, la gauche, ce sont des valeurs principales, des valeurs que nous partageons, bien sûr, la solidarité, la fraternité, la liberté, l'égalité. Un attachement très profond à la classe ouvrière, à ses luttes, à ses droits, aux petites gens, et une volonté une vision de ce qu'on appelle, on pourrait appeler le socialisme, qui est une vision qu'il explique comment il y a cru, comment on l'a éduqué dans ce contexte-là, comment après il a compris très tôt ce qu'était le stalinisme par le biais de ce qui s'est passé dans sa famille avec son père, avec ses deux pères. Puisque son père naturel comme son père adoptif ont subi aussi la répression stalinienne. Mais en même temps, il raconte comment il a pris conscience de tout ça, mais comment, en prenant conscience de ce que c'était, il gardait un point de vue de gauche. Et pour moi, Modzelewski, pour moi et beaucoup d'autres, c'est l'incarnation qu'on pouvait être de gauche et se battre contre les régimes communistes. Et se battre dans ces pays sur des droits démocratiques. Et ça, je crois que c'est important parce que ça sous-tend, à mon avis, aussi une certaine toute sa fidélité qui a été évoquée, son engagement et sa façon de rester attaché à certaines valeurs et qui va l'entraîner au fur et à mesure à prendre des positions qui ne sont pas forcément celles de ses amis. Le mouvement d'opposition démocratique, pour dire vague et générale, qui naît à partir de 1956, et dans lequel il est une des grandes personnalités, il va y apporter beaucoup avec ses idées, avec son action. Mais c'est un mouvement qui est pluraliste, dans lequel il y a beaucoup d'opinions, même dans le petit groupe qui fait la première version de la lettre J'ai appris ça dans le livre. Il y a même des gens qui sont très éloignés l'un les autres du plan politique. Mais dans tout ce contexte, il va défendre des idées. Il défend ses idées et quelquefois, ces idées deviennent les idées dominantes du mouvement. Par exemple, j'étais très frappé, il le raconte très bien dans le livre, comment il s'est battu pour que Solidarność soit un syndicat national, indépendant et national. Alors que l'accord de Gdansk, on l'a oublié, donnait simplement le droit aux syndicats sur la côte littorale. Après, il y avait des syndicats qui sont créés. Et on voulait, à l'époque, faire une sorte de syndicat déconcentré avec beaucoup d'organisations diverses, etc. Et lui, il a été non seulement l'organisateur de cette fraternité qui existait dans le syndicat, mais il a trouvé le nom. C'est lui qui a proposé le nom de l'appeler Solidarność, qui était le nom du bulletin du comité de grève de Gdansk. Et je crois que on voit très bien comment il s'est bagarré, comment il a fait, comment il a construit cette unité. Mais on voit aussi très bien comment, lorsque il s'est trouvé dans d'autres moments, il a vu que son syndicat ou ce qui s'y passait était en porte-à-faux, Georges l'a évoqué tout à l'heure, il a pris des positions très fermes. Je me souviens extrêmement bien sa prise de position au moment de l'affaire dite de Bitgauche, lorsqu'il a critiqué la façon dont Wałęsa avait donné son accord pour un compromis. Compromis qu'il considérait sur le fond juste. Mais ce compromis avait été imposé par des manœuvres dans le dos du syndicat et il n'était pas d'accord. Et donc, il a démissionné de son poste de porte-parole de Solidarność. J'étais la voix de Solidarność officielle jusqu'à à cette réunion qui a eu lieu en avril 1981. Donc, je pense que c'est cette façon d'être et cette façon d'être présent en tant que militant. Là aussi, je tiens à insister sur une autre dimension de Karol Modzelewski, c'est que c'est un militant. C'est un intellectuel et un militant. Et c'est pas par hasard s'il n'était pas conseiller du Solidarność. Il était élu de Solidarność à Wrocław, membre de la Commission nationale. Et il s'est battu comme militant, comme responsable. Il faisait partie du mouvement. Et donc, et ça a été pour lui, à mon avis, c'est aussi une figure particulière. Donc, je prendrai un autre exemple. Plus tard, on l'a évoqué, mais je crois que il a été, par exemple, lorsqu'il y a eu les négociations quand il était en prison, il a fait 8 ans et demi de prison en 3 fois. Et d'ailleurs, pour les lecteurs de Foucault, ou pas de Foucault, peu importe, je recommande vivement le chapitre, et tous les chapitres, mais le chapitre sur les prisons dans le livre de Karol est extraordinaire. Il vous explique ce que c'était qu'une prison dans les régimes communistes, mais ce que c'était la culture des prisonniers. Et en plus, ce qui est tout à fait drôle, là c'est drôle, c'est qu'il a appris à parler comme les truands, comme les gens, ou les truands, je ne sais pas, comme les prisonniers, avec tout le langage de la prison. Et puis après, il s'est retrouvé négociateur de Solidarność, dans la même prison où il avait été lui-même, avec les prisonniers. Et la première chose qu'il a fait, c'est qu'il leur a parlé prisonnier. Il leur a parlé avec le langage du coin. Et donc, tout de suite, ça a beaucoup mieux marché pour faire la négociation. C'est un très beau moment. Mais je crois que le fait qu'il est... quand il était en prison, il faisait partie, avec Adam Michnik et d'autres, qui refusaient ce que proposait, par exemple, une partie de la direction de Solidarność, qui faisait pression pour qu'ils acceptent, par exemple, de sortir en disant qu'ils ne feraient plus de politique ou des choses comme ça. Ils ont refusé. Et finalement, ils ont gagné, parce qu'ils sont sortis la tête haute sans avoir capitulé. Et je crois que c'est aussi cette façon d'être dans la lutte. J'ajouterai encore son comportement en 89 et au début des années 90. Il a effectivement été l'opposant du plan Balcerowicz et il en a fait une critique qui aujourd'hui est en grande partie prémonitoire. Mais il y revient à la fin du livre et il analyse quand même qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'il a un grand étonnement. C'est un militant, donc il a aussi des étonnements de militant. Lorsqu'il s'est trouvé dans une grande entreprise qu'il connaît bien, où il avait été comme dirigeant du syndicat, où il connaît tout le monde, pour expliquer pourquoi il était contre ce plan qui allait attaquer, qui allait mettre au chômage la plupart des ouvriers qui étaient dans la salle.
Il s'est aperçu que tout le monde lui a dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce type? Pourquoi vous dites tout ça? C'est notre gouvernement !» Et donc, il s'est retrouvé complètement isolé. Et comment... C'est cette conscience-là d'être isolé. Comment c'est possible? Et donc, il y a dans ce livre aussi une analyse très profonde, à mon avis, sur le devenir et l'évolution. Touraine y a fait un peu allusion au début, de ce mouvement social sur la longue durée. Et sur le moment capital qu'a été, aux yeux de Carole, le coup de force de Jaruzelski en décembre 81, qui a dispersé Solidarność, qui l'a brisé. Et il va même jusqu'à dire qu'avec le recul, on peut considérer que ce moment, ça a été une rupture quasiment culturelle qui s'est opérée dans le mouvement social et dans la classe ouvrière, et qui va expliquer beaucoup de choses après. Et ça, je crois que c'est un point aussi essentiel pour comprendre qui est très bien raconté dans ce livre. Alors, je ne vais pas trop m'étendre, mais je voudrais simplement terminer sur un autre aspect qui a été déjà un petit peu évoqué, mais je crois que c'est l'articulation entre l'intellectuel et le militant. Karol Modzelewski est un médiéviste, c'est un historien. Il a écrit une partie de sa thèse, sinon de sa thèse d'habilitation, en prison. Quand il était en prison, il s'est battu pour que les livres puissent arriver dans sa cellule et qu'il puisse travailler. Il y a toute une histoire à la sortie de cette sortie de prison qui est absolument rocambolesque, a posteriori, mais qui à l'époque ne l'était pas, qui est la sortie de son manuscrit. Et il voit le flic qui part avec son manuscrit, il a peur qu'il ne reviendrait jamais. Il avait passé des années à écrire ce qui deviendra son habilitation, si je me souviens bien. Et c'était un texte sur les paysans dans le régime des piastres, ce n'est pas vraiment un texte sur Solidarność. Et il est parvenu. Et donc il a fait aussi une carrière universitaire, il a été un grand professeur, il a été le vice-président de l'Académie des sciences en Pologne, démocratique, et il a assumer ça. Et je crois qu'un des points intéressants, c'est que je ne dirais qu'il a été militant, il est historien, il est militant, mais il y a une chose qu'il n'a jamais été. C'est politicien. Ce n'est pas un politicien. Et donc, comme ce n'est pas un politicien, eh bien, il y a des moments où il va concentrer son activité. Après 5 ans de prison ou 4 ans de prison, bah, il pense qu'il serait peut-être mieux qu'il arrête un petit peu et qu'il se mette chez lui et qu'il se mette à faire un peu d'histoire médiévale. Surtout, bon. Et il a pris des pauses. Il s'est mis, quelquefois, il s'est concentré plus sur ceci, plus sur cela. Et ça, je crois que c'est absolument admirable parce que ça donne cette longue vie, ce beau parcours. Il a en même temps construit une œuvre comme médiéviste et été un personnage historique fort pour l'histoire de la Pologne et même pour tout le monde, pour nous en Europe, je crois, ça a été dit, mais c'est vraiment un cas essentiel. Je crois que ce livre doit être lu pour ça, parce que c'est un livre qui se lit très bien, mais je crois qu'il y a aussi cette histoire, c'est vraiment une histoire comme il y en a peu et qui incarne bien ce destin. Et c'est pour ça que je voudrais remercier Carole pour ton livre. Et je te remercie beaucoup et te remercier pour ce que tu es, en fait. Parce que je crois que ce livre, c'est aussi c'est toi, tout simplement. Et on en a vraiment, quand on sort de ce livre, on reprend un peu confiance. Parce que bien sûr que les analyses sont suicides, bien sûr qu'il y a souvent du pessimisme. Il est souvent pessimiste, Carole, quand on lui propose d'analyser qu'est-ce qui va se passer dans les 6 mois. Il n'est jamais optimiste, c'est rare. Mais en même temps, il est surtout lucide. Il est lucide. Et il a une capacité, et justement, il ne dépose jamais les armes. Là, j'ai une critique sur le titre. J'aime bien le galop, mais j'aime pas le combattant usé, le chevalier usé. Je pense pas que tu sois encore usé. Je vous rappelle quand même qu'il y a un an ou deux, il y avait des manifestations énormes dans Varsovie contre le gouvernement du PiS. Qui est-ce qui parlait au micro? Carole, qui a parlé, qui passait à la télévision, qui critiquait, qui expliquait en détail qu'est-ce qui se passait. Il n'était pas du tout en train de considérer que c'était fini. Et je crois que même si, bien sûr, avec le temps, avec l'âge, on ne peut pas faire autant qu'avant, je crois qu'il est toujours aussi conscient de ce qui se passe. Et je crois que c'est très important pour nous tous.
Bien. Chère Carole, on te dit que tu n'es pas usée, donc c'est à toi la parole.
Ah bon. Est-ce que je peux remercier d'abord tous les intervenants? Et je dois dire qu'il y a des tas de problèmes sérieux qui ont été soulevés, qu'il faut les examiner. Si je ne réponds pas à tout ce qu'on a dit, excusez-moi. Et j'ai eu quelquefois la peine à suivre tous les propos parce que j'ai un œil un peu endommagé, comme j'ai 81 ans. Et à mon âge, c'est normal, après tout. Et donc, d'abord, pour la première solidarité et la deuxième solidarité, j'y tiens beaucoup, parce qu'il y a une rupture entre la première et la deuxième, et c'est une rupture très importante qui, à mon avis, facilite à expliquer les cours de l'histoire de la Pologne jusqu'au moment actuel. C'est-à-dire, vous avez lu probablement tous, les autres liront ce livre. Il y a là un récit sur la grève dans une usine à Varsovie, d'ailleurs. La Varsovie n'était pas la ville où la grève contre l'introduction de la loi martiale était vraiment massive. Et il n'y a que quelques usines qui se sont mises en grève. Et les ouvriers d'autres usines se sont laissés terroriser, ce n'est pas étonnant, soit par la présence de chars dans les croisées des rues, soit par l'assaut donné par la police ZOMO, c'est-à-dire corrélative du CRS français, à peu près, mais armée des armes à tir, des armes à feu. L'assaut fait au siège des Solidarność, soit par les affiches qui promettaient les procès devant le tribunal militaire à chaque civil qui ose participer à la grève. Donc la majorité des ouvriers polonais ne s'est pas mise en grève. Quand même, il y avait quelques usines à Varsovie qui se sont mises en grève, entre autres il y avait une usine militaire d'ailleurs qui produisait les attelages de radars. Où était une parmi les premières où ZOMO a intervenu. Il y avait le char de l'armée qui a fait le trou dans le mur. À travers ce trou est entré quelques 600 ou 700 soldats de ZOMO, de la CRS, avec les armes à tir. Ils sont arrivés à l'endroit où les ouvriers étaient réunis, dans une halle à production, et le commandant des ZOMO a donné l'ordre, sortez. Personne ne bouge. Vous ne sortez pas? Silence. Alors il a donné un ordre à ses subordonnés, chargez les armes. Ils ont entendu le cliquement des armes chargées, ils ont regardé dans les canons de fusils pointés sur eux. Ils n'étaient pas insurgés. Ils n'étaient pas combattants préparés à la confrontation physique avec l'armée. Et il y a un qui s'est levé, un autre, puis ensuite, peu à peu, tout le monde est sorti, s'est laissé conduire à la porte, s'est laissé contrôler les papiers. Et certains ont été arrêtés sur place et les autres ont été renvoyés à la maison. Et avec l'ordre de revenir demain matin au travail. Donc, ils ont réagi d'une manière raisonnable, sans doute. Ils n'étaient pas là pour se faire tuer. Ceux qui s'obstenaient à rester là-bas et à opposer une résistance physique aux hommes qui intervenaient dans la mine cette fois-ci, c'était la mine Vujek, en Haute-Silésie, où la grève était à peu près générale, ou presque générale, comme à Wrocław d'ailleurs, où elle était à peu près générale. Et les ZOMO ont tiré et ont fait 9 cadavres avant d'avoir pacifié la grève. Donc, tout ça, c'était ce genre qui capitulait vis-à-vis de la force de la violence armée. Ils ont réagi d'une manière raisonnable, mais ils savaient d'avoir capitulé devant la force militaire, la violence militaire. Et c'était un savoir sur eux-mêmes qui était très traumatisant et qui a contribué beaucoup à la disparition de la première solidarité. Parce que la première solidarité était morte au début de la loi martiale, avec les premières confrontations avec la force, la violence armée, et avec la conscience, l'attitude psychique cassée, la conscience des gens qui étaient habitués à la pensée qu'ils vont défendre jusqu'au bout leur syndicat, leur mouvement, leur liberté, et qui ont été forcés à capituler, au fond. Ils pensaient d'eux-mêmes comme des gens qui ont capitulé vis-à-vis de la force. Et la solidarité, d'après moi, c'était la révolution. Et j'entends la notion de la révolution, et aussi à cause de mes expériences liées à la révolution de Solidarność, d'une manière différente de ce qu'on lit dans les manuels de politologie. Pour moi, ce n'est pas le changement du régime. Pour moi, c'est un phénomène psychologique, de la psychologie des masses, pour ainsi dire. C'est un état psychique de la grande foule, de la quantité énorme de gens, et qui se réveille du long sommeil. Des gens qui étaient auparavant des conformistes quelconques, qui vivaient dans ces conformismes convaincus que tout le monde font ainsi, qu'il n'y a rien de déshonorant dans cette situation-là, tout au contraire, c'est raisonnable, et qu'une fois, ils ont senti la vocation, la force et la vocation. Ça a commencé avec la grève de Gdańsk, ça a commencé avec les grèves qui ont suivi la grève de Gdańsk, la grève des 700 000 ouvriers et qui ont fait tourner l'histoire de la Pologne. Ils en avaient conscience d'avoir fait tourner l'histoire de la Pologne, et ils ont voulu, comme les autres qui se sont raillés en créant le syndicat de masse, et ils se sont sentis comme Jeanne d'Arc, c'est-à-dire comme personnes qui ont repris en main sa propre liberté souveraine. Liberté souveraine dans leur usine, dans le cercle de leurs amis, et dans leur syndicat, dans leur pays. Et là, cette position souveraine, ils n'étaient prêts à céder à personne, pas au Parti communiste surtout. C'est pourquoi tous les rusés du Parti communiste qui a essayé de désarmer Solidarité, comme elle est désarmée l'opposition d'après-guerre, l'opposition, je parle de l'opposition légale, pas de maquis anticommunisme, de l'opposition légale d'après-guerre, dont par exemple le Parti socialiste, dont surtout le Parti paysan, ils en avaient une longue pratique. Ils opéraient, si je peux employer le terme allemand que vous connaissez tous probablement, de faire le Gleichschaltung. Et on ne pouvait pas Gleichschalter Solidarność, parce qu'elle avait cet esprit indépendant qu'il était impossible de vaincre par des manipulations. Il a fallu recourir à la force militaire pour le faire. Mais avec la force militaire, avec la volonté des survies physiques. Ils ont vaincu. Ils ont vaincu Solidarność. La première Solidarność a disparu comme phénomène psychosocial des masses, de l'activité des masses, comme une révolution, un état d'âme collectif. Et elle a disparu au mois de décembre de 1981. Ce qui a survécu, c'était les structures clandestines, la conspiration. Mais c'était une autre chose. C'était la conspiration nettement anticommuniste. On ne peut pas dire que Solidarność, pendant, en tant que mouvement de masse, mouvement ouvrier de masse, était anticommuniste. Personne ne disait comme ça. Antisocialiste, ça nous indignait d'être accusés de ça. Et je ne parle pas des intellectuels qui pouvaient avoir des sentiments et être liés sentimentalement aux idéaux socialistes, mais je parle des ouvriers techniciens de Szczecin qui rédigeaient un journal qui s'appelait L'Unité, d'ailleurs, comme le journal du Parti communiste italien, mais sans songer à cette similiance. Jedność en polonais, et ce journal, dans ce journal, on répliquait à la propagande communiste qui nous accusait d'être force antisocialiste. Il répondait, nos camarades syndicalistes, ouvriers, techniciens, pas intellectuels, non, c'est vous la force antisocialiste parce que vous êtes contre la classe ouvrière, vous êtes contre nous, et nous sommes la force socialiste. Et c'était inconcevable, ce genre de discours, après la loi martiale, c'est-à-dire pendant le fonctionnement de la conspiration post-Solidarność, de la Solidarność clandestine. Là, la Solidarność clandestine avait le langage et la manière de penser nettement anticommuniste. Du socialisme, on ne parlait pas. On n'avait pas la moindre envie de le défendre, de défendre la parole, les mots d'ordre du socialisme contre les abus du langage communiste, du Parti communiste. Donc c'était autre chose, c'était plus un mouvement de masse ouvrier. Il y avait des ouvriers, mais il y avait surtout de l'intelligentsia, des intellectuels, pas seulement des intellectuels, des techniciens aussi, etc. Mais c'était c'était une clandestinité anticommuniste. Pas très importante de point de vue numérique, qui durait quelques années, de moins en moins forte, de plus en plus faible. Mais la grande solidarité, la première solidarité n'a pas survécu. Ce qui a survécu, c'était pas la première solidarité, la grande solidarité, c'était pas non plus la conspiration comme ça, prétendue continuation, c'était le mythe. Et le mythe, c'est-à-dire la mémoire. On peut pas oublier 16 mois d'une vie collective en liberté de penser, en liberté d'agir collectivement et de combattre. De mener un combat syndical collectif. C'est inoubliable. Donc, c'est une force spirituelle. Un mythe, ça ne peut pas être mis en prison, ni tué, parce que la violence ne le nuit pas. Il survit à la violence, bien entendu. Ce qui peut le tuer, c'est l'abus des dépositaires du mythe qui s'en sert pour couvrir des actions, politiques notamment, politiciennes notamment, qui sont hostiles ou étrangères à leur base. Ça peut tuer le mythe. En fait, le mythe a été tué après qu'il a servi d'une couverture politique, psychologique, à la thérapie de choc. Après la thérapie de choc, il n'y avait plus de mythe. Mais avant, notre victoire électorale en 89, c'était l'ordre, c'était l'œuvre du mythe. qui a ressuscité, ce qui a sorti de la tombe, qui a forcé les pouvoirs communistes. Il n'aurait forcé de rien les pouvoirs communistes, ce n'était pas l'époque de Gorbatchev. Il faut dire que ce ne sont pas nous qui ont aboli le communisme, c'était Gorbatchev qui l'a fait, bien entendu. Il n'a pas voulu le détruire, il a voulu le sauver, mais comme ça arrive souvent dans l'histoire, il était, pas premier, pas le dernier, peut-être nous aussi, un apprenti sorcier, c'est-à-dire qu'il est arrivé au résultat pas désirable pour lui. Donc, quand même, je pense que d'avoir perdu les fils. Est-ce que ça suffit ce que j'ai dit? Oui. Pour le début, ça suffit.
Pour un début, mais on ne va pas te...
Non, je reviens dans le débat. Oui. Donc, je pense que la formation qui a gouverné au nom du mythe de Solidarność et qui portait le nom de Solidarność, c'est-à-dire les comités civiques Solidarność, ce n'était pas le mouvement syndical. Le mouvement syndical relégalisé était neuf fois moins fort numériquement, et il était 100 fois moins fort comme dynamique d'action. Et c'était l'ombre de la première Solidarność qui a très vite été tentée par les tentations qu'on appelle, j'aime pas les mots populisme, par les tentations qui sont appelées populistes, c'est-à-dire par les tentations qui ne sont pas étrangères au courant politique. D'ailleurs, le syndicat qui s'appelle jusqu'à présent Solidarność, qui est faible et qui est tout différent du nôtre, est un meilleur allié du Parti de la Justice qui gouverne maintenant la Pologne, pour vous dire en un mot bref, brutal et porteur de vérité, pour ainsi dire. Donc vous voyez bien la rupture. Je peux dire que notre Solidarność n'a pas été ressuscité, et que ce qu'on a fait sous la couverture du mythe de Solidarność a tué le mythe et a engendré, à mon avis, une évolution néolibérale de la Pologne, l'intelligentsia post-Solidarność. Les intellectuels post-Solidarność ils prenaient comme nouvelle profession de foi les courants de la pensée néolibéral qui venait de l'Occident, qui était considéré une science, horreur pour des ex-marxistes qui devaient se rappeler d'une autre idéologie qui aussi se faisait passer pour une science, et qui a été dirigée surtout contre notre base d'antan, notre base sociale d'antan. Donc, ça ne peut pas se passer. Ça donnait le succès à la thérapie de choc, mais ça n'a pas donné le succès durable à la démocratie polonaise, parce que la démocratie, c'est la dernière chose que j'avais qui est reprise textuelle du livre. La démocratie est forte du soutien des citoyens. Elle peut tomber l'accord des citoyens en ce qui concerne les principes fondamentaux de la démocratie disparaît. C'est notre cas, hélas.
Voilà. Je propose que, pour le laisser Karol Modzelewski reprendre son souffle, on lui pose une ou deux questions depuis la salle. Des questions, s'il vous plaît, brèves et précise.
Oui, je pense, j'aimerais beaucoup qu'on revienne sur les dernières paroles de Karol, c'est-à-dire ce Solidarność actuel qui existe encore, et la situation du PiS. Dans quelle situation la Pologne se trouve aujourd'hui? Parce qu'on est un petit peu dérouté par cette situation.
Bonjour, Christina Bachka. À vrai dire, c'est pas ma question, c'est Georges qui la posait. Mais je voudrais bien que Carole réponde, c'est-à-dire comment il explique la situation actuelle et comment on arrive là.
Ouais, c'est juste un complément. Comment va-t-on en sortir de cette situation et quand?
Dans quelle mesure l'Église a contribué à la situation actuelle?
Jean-Yves me dit qu'il y a un film, si tu peux en dire un peu plus. Jean-Yves.
Actuellement, il y a un film en Pologne qui s'appelle Claire, ou Clergé, oui, Clergé en fait, et qui est sorti il y a quelques jours. Et c'est le plus grand succès du cinéma depuis 89. Et il y a, en quelques jours, il y a plus de 800 000 personnes qui sont allées le voir. C'est un film qui raconte l'histoire des histoires de trois prêtres. Qui sont corrompus, pédophiles, qui trafiquent en tout genre, qui font leur travail de prêtre, etc. C'est un film qui est à charge, qui est très très dur. Et visible, je ne l'ai pas vu, mais d'après les comptes rendus que j'en ai lus, c'est vraiment au vitriol. Et il est extraordinairement populaire. C'est les gens se battent pour aller le voir. Ils ont été obligés d'ouvrir des salles de cinéma. Enfin, c'est incroyable. C'est un phénomène social. Enfin, là, on n'est pas dans la révolution, mais c'est quand même un sacré phénomène.
Bon, dernière question, je vous en prie. Bon, écoutez, je vous remercie. J'espère ne pas trahir les différentes questions en les résumant de la façon suivante. On aimerait ton analyse de la situation actuelle, de la façon qui fait qu'on y est arrivé, de la façon dont on pourrait en sortir et quand. Donc un peu de prédiction. Fait du très long terme, cette laissera beaucoup de latitude. On commentait enfin avec Jean-Yves une question sur le rôle de l'Église. Jean-Yves Potel évoquait un film qui connaît un énorme succès en Pologne actuellement.
Je n'ai pas vu encore.
Alors ne fais pas comme certains critiques qui parlent de films ou de livres qu'ils n'ont pas lus ou qu'ils n'ont pas vus. Mais voilà pour les... Tu peux parler du rôle de l'Église, par contre.
Les Polonais les ont vus, ils ont déjà vu ce film. Il a eu un énorme succès, ça je le sais. Mais parce qu'on me l'a dit ici à Paris. Je m'excuse, je suis depuis une semaine à Paris.
Mais la question est portée sur le rôle de l'Église, pas sur ce film.
Oui, je comprends. Donc, la première question est pointée sur...
Situation actuelle, oui, comment on en est arrivé à la situation actuelle, comment et quand en sortir?
Le premier est beaucoup plus facile, surtout pour un historien, à répondre. Et le deuxième revient des prophéties. Ce n'est pas mon rôle professionnel, c'est un rôle qui est permis à chacun. Comment est-on arrivé à cette situation? Ça, à mon avis, ça, c'est le résultat de la situation qu'on a décrite ici. Pas seulement moi, mais autres orateurs également. Il y avait un mécontentement grandissant sur toutes les couches populaires. Je ne parle pas de la classe ouvrière parce qu'elle est fondue. Je ne dis pas qu'elle est tout à fait inexistante en Pologne, mais elle est très faible numériquement. Et il n'est plus ni une force syndicale, encore moins une force politique. Mais il y a quand même ce qu'on appelle la classe populaire, ou les couches populaires, environ 40, 38, 45, 50%, peut-être non, un peu moins de la moitié, peut-être, de la population polonaise. Ben, ce sont les électeurs du PiS, il faut le dire tout de suite. Parce que ils ont pas seulement souffert matériellement et socialement, ils ont été dégradés aussi au niveau du prestige. Ils se sont sentis peut-être pas méprisés, Mais jak powiedzieć, lekceważony. Pardon? Négligé, voire méprisé. Ce sont les gens, disait-on, pour réconforter aussi les vainqueurs de la transformation, les gens qui étaient bons là, dans le business, ce sont les pauvres gens qui ne sont pas bons pour la Nouvelle-Pologne, pour le nouveau régime. Ils ne savent pas prendre leur destin dans leurs mains. Ils ne sont pas doués au business, donc on n'a pas besoin de s'occuper excessivement d'eux. C'est une auto-excuse. C'est la manière de calmer la mauvaise conscience si on en avait, si on a une conscience, et surtout si on a une conscience mauvaise. Mais c'était commode, psychologiquement, pour la classe illustrée, pour la Pologne, pour ce que j'appelle dans le livre La Pologne illustrée. Mais qui illuminait, pardon. Mais c'est ressenti douloureusement par les couches populaires elles-mêmes qui se sont senties pogarzane, méprisées, tout simplement méprisées. Donc, aux côtés d'une dégradation pas toujours très, très claire économique, à côté d'une dégradation dans les catégories du prestige social, et il y a le sentiment du mépris de tous ceux qui sont des bénéficiaires de la transformation. La gauche en Pologne, s'il y en a, maintenant, en ce qui concerne la gauche au sens traditionnel du mot, c'est-à-dire un parti vraiment gauchiste, il n'y a qu'un ou deux. Hein, il s'appelle RASEM, c'est-à-dire Ensemble. Et c'est un parti qui éveille ma sympathie, je dois dire, comme je suis gauchiste, vous le savez. Et il y avait quelqu'un qui l'a dit ici, je suis un gauchiste, je l'avoue, sans aucune honte. Il y a un autre parti qui s'appelle l'Initiative polonaise. Rien à voir avec le nationalisme. Et c'est un parti de gauche un peu plus illuminé, si vous voulez. Mais c'est de l'intelligentsia dans un camp et dans l'autre. C'est la jeunesse intellectuelle, on peut dire. Dans l'un et l'autre cas. Et il y a en outre, il n'y en a plus pratiquement du Parti du Travail, de l'Union du Travail, que j'ai contribué à créer avec Bougueil. Il y a en revanche un réplan des forces au plan des sondages, au plan électoral, l'Alliance de la Gauche démocratique, mais qui est un parti post-communiste du type du Parti démocrate en Italie, par exemple, et qui n'a pas beaucoup à voir avec la contestation gauchiste de ce qui se passe en Pologne, construisant son capitalisme. Mais voilà, donc en absence de la gauche, ce sont ceux qu'on appelle les populistes qui prennent leur place. J'explique parce que l'expression populisme, le terme populisme ne me plaît pas. D'abord parce qu'il est ambigu, parce qu'il n'est pas défini, mais aussi parce qu'il il n'est pas loin du mépris du peuple. À part ça, c'est un terme qui est en usage commun. Donc on ne peut pas lutter contre l'usage commun. Et je donne donc ma définition. Le populisme, c'est la contestation de la démocratie libérale qui se réclame de la de sentiments de la haine du peuple par rapport aux élites. Voilà. De la haine du peuple, de la haine populaire contre les élites de tout genre, les élites financières, bien sûr, les élites du business en général, les élites surtout, les élites intellectuelles, culturelles, les élites professionnelles, tout ça, ce sont les élites. Tout ça, ce sont des gens qui nous méprisent et qui sont dignes du mépris à cause de nous avoir méprisés. Et ce sentiment d'agression anti-élitiste est le sentiment qu'a aménagé le droit à justice. C'est pourquoi il a vaincu dans les dernières élections avec 38% de suffrages, ce qui lui a donné une légère majorité mais absolue dans la, à la Diète, c'est-à-dire dans la Chambre des députés, et une majorité presque écrasante au Sénat. Sénat, il ne faut pas traduire. La Diète, il faut traduire. Donc, c'est ce qui s'est passé. Droit et justice, c'est un parti qui a déjà gouverné une fois, qui a essayé, il a fait de son mieux pour construire un État policier en Pologne. Il n'avait pas de majorité à lui seul, suffisante pour former le gouvernement. Il s'est allié avec deux partis de droite, l'un qui n'était peut-être pas tellement de droite, qui était populiste, justement populiste, un côté paysan. Et c'était le parti de Le Pen qui s'appelait l'autodéfense. Et l'autre, c'était l'Alliance des familles polonaises. Ça, vous sentez aisément, dans le nom même, la volonté de renouer à la démocratie nationale d'antan, c'est-à-dire au parti nationaliste d'entre-deux-guerres, qui a eu comme leader Gezwe Konchenazewa. Gertek, monsieur Gertek, un avoué, un juriste, un homme politique intelligent, il faut dire, avec l'insistance, parce qu'il a compris très bien de quoi, qu'est-ce qui va se produire. Et pour commencer, le droit à la justice a essayé d'abuser du pouvoir policier dans le cadre, sans changer le système légal. Sans voter la nouvelle loi sur les tribunaux, sans voter la nouvelle loi sur les parquets, sans voter la nouvelle loi sur la police, ce qu'il a fait, les premières choses qu'il a fait maintenant. Alors il ne pouvait pas la faire, faute de majorité suffisamment claire, et il a essayé de prendre la place de ses alliés en les détruisant. Il a monté une provocation policière très honteuse, fausse et très maladroite, il faut dire, contre les populistes numéro un, c'est-à-dire Le Pen, André Le Pen, qui a échoué. Je vous dis qu'ils ont agi d'une manière maladroite. C'était le boulot des procureurs, c'est-à-dire des chefs du parquet général actuel, qui est en même temps le ministre de la Justice, c'est le même personnage, qui s'appelle Gertek. Non, pas Gertek, pas du tout. Jabro, bien entendu. C'est si vous voulez dire, c'est le personnage noir de Touré et Justice, parce que c'est lui qui fait, qui joue le rôle majeur dans la construction de l'État policier en Pologne. Ben alors, il a fait ça, après cette provocation avortée, le droit et justice a démissionné Monsieur Le Père de son poste de vice-président du Conseil. Alors, son parti a quitté la coalition gouvernementale. Et tout de suite après, le parti M. Gertich, c'est-à-dire le parti nationaliste plus ou moins civilisé, a aussi quitté la coalition gouvernementale parce que celui-là, il était intelligent, il a compris qu'il sera le suivant. Donc il n'a pas voulu attendre la provocation policière, il a quitté la coalition en mettant le gouvernement dans la situation d'une minorité politique. Et donc on a déclaré des nouvelles élections qui ont été honteusement perdues par droit et justice. Et le vainqueur, par l'effort commun de la classe moyenne terrorisée par ce qui a été fait par la droit et justice, mais aussi par la jeunesse qui a massivement participé aux élections, s'informant par le SMS qu'il faut aller voter contre droit et justice. C'est pour ça qu'ils ont voté pour le Parti libéral, qui était la plateforme civique, qui gouvernait jusqu'à peu de temps, qu'il y a 2 ans qu'il a été vaincu dans les élections. Et ce parti a gouverné pendant 2 cadences, c'est-à-dire 8 ans. Et les droits et justice étaient forcés, hélas, de peiner en opposition parlementaire. Voilà.
Bien. Carole, le temps passe. On pourrait continuer pendant des heures.
Tu as raison.
Je pense que le moment est venu, d'un côté pour ceux qui veulent faire signer un exemplaire de ton livre, de venir te rejoindre ici, et pour nous tous de toute façon.
Et puis dans mon livre, il y a le post-scriptum qui est destiné à l'attention des lecteurs français, où il y a l'explication de ce qui s'est passé justement. J'espère que vous allez le lire, c'est la réponse à la première question. Pourquoi c'est arrivé?
Voilà.
Et comment sortir de ça? À vrai dire, je ne pense pas que c'est une affaire facile ni accessible vite, parce que tous les efforts d'opposition parlementaire et extra-parlementaire, j'étais lié plutôt à l'opposition extra-parlementaire, c'est là que j'ai parlé au meeting de rue. Mais c'était le meeting de l'intelligentsia. Il n'y avait pas de la jeunesse, et il n'y avait pas des gens du peuple. Il n'y avait qu'intelligentsia là-bas. Et pour sortir de la situation actuelle, il faut reconquérir le soutien populaire qui appartient maintenant, électoral, qui appartient maintenant au droit à la justice. Et ces gens-là, ils ont des bonnes raisons pour voter droit et justice, parce que c'est le premier parti qui a prêté l'attention à leur situation psychologiquement, socialement, économiquement très difficile, et qui se sont engagés en politique sociale qui était à pratiquer avant, mais qui n'a pas été pratiquée à cause du dogmatisme néolibéral qui régner dans notre manière de penser des hommes politiques, des hommes publics. Mais voilà, sans reconquérir l'électorat du droit et justice, on ne peut pas le vaincre sur le plan électoral. Et ça n'arrive pas vite, ça n'arrive à mon avis certainement pas dans les prochaines élections parlementaires.